Les rencontres de la galerne.
Amélie Fonlu, Miguel Bonnefoy, bonsoir, merci de nous rejoindre à la galerne. Amélie pour votre roman La Passagère, Miguel pour L'Inventeur, deux romans parus chez Rivage, votre maison d'édition à tous les deux. Nous avons décidé ce soir d'une rencontre croisée avec vous deux. Avec vous, Amélie, puisque vous êtes journaliste, illustratrice et primo-romancière, donc désormais autrice. Puis Miguel, on vous a déjà reçu à la librairie pour vos romans précédents. Donc, interview croisée, en commençant peut-être par vous, Miguel. L'écrivain, est-ce que c'est un texte écrit pendant la résidence d'écriture à Berlin? Je sais que vous avez fait ça pendant quelques mois.
Oui, absolument. C'est une résidence d'écriture qui s'appelle le DAAD, le D-A-A-D. C'est une résidence d'écriture qui te donne un appartement dans le centre de Berlin pendant à peu près un an. Et c'est sublime parce qu'on se retrouve avec plein d'artistes différents de quatre disciplines artistiques qui créent une sorte de transposition, de transculturisation, de porosité entre les différents domaines. Et c'est très enrichissant et très inspirant. Donc ça a été écrit à Berlin, mais le livre n'a rien d'allemand.
Et c'est vrai, parce que vous vous êtes penché sur les traces, revenu sur les traces d'un homme, Augustin Mouchot, que je ne connaissais pas moi-même. Qu'est-ce qui vous a finalement amené sur ces traces? Parce que finalement, son visage, et vous le dites vous-même, n'est sur aucun tableau, sur aucune gravure, dans aucun livre d'histoire.
Absolument. Eh bien, je suis tombé vraiment par hasard sur ce personnage en regardant une série documentaire sur l'astrophysique qui s'appelle Cosmos. Et j'ai trouvé le personnage absolument délicieux, intéressant, inspirant, car j'y voyais un paradoxe et un oxymore qui était fascinant. Celui d'un homme froid qui s'est intéressé au chaud, celui d'un homme de l'ombre qui s'est intéressé à la lumière, celui d'un homme timide qui s'est intéressé à l'astre le plus chaleureux. Et donc, je me suis lancé dans un travail d'archiviste pour essayer de saisir tout ce qu'il avait d'intéressant, les différents éléments de sa vie, et tout ceci en le faisant passer par le moulin de la fiction pour donner un bon équilibre et un bon dosage au niveau de la structure narrative.
Ce qu'il faut rappeler quand même, c'est qu'en plein 19e siècle, il s'intéresse tellement au soleil qu'il découvre quasiment, même s'il y avait quelques travaux qui avaient été menés avant lui, mais il découvre et crée une machine qui va permettre de capter l'énergie solaire. C'est fabuleux à cette époque.
C'est tout à fait ça. Il faut imaginer une époque dans laquelle tout est mu par la vapeur, et donc pour pouvoir avoir de la vapeur, il faut bouillir de l'eau. Pour pouvoir bouillir de l'eau, il faut du charbon. À cette époque, le charbon est cher, épuisable et salissant, et il est un des premiers à imaginer une machine avec des miroirs paraboliques qui permet de concentrer toute la chaleur solaire sur une chaudière qu'on cloche pour pouvoir faire de la vapeur et ensuite actionner une machine à vapeur. Alors il n'invente pas l'énergie solaire, mais il couple deux machines qui est le cuiseur, la marmite solaire d'Horace Bénédicte de Saussure et la machine à vapeur de James Watt.
Miguel, je parlais tout à l'heure de vos précédents romans. On vous a reçu déjà ici à la librairie. Amélie est à nos côtés aujourd'hui, Amélie Fonlu. Et j'ai trouvé parmi les connivences qu'il y avait dans vos écrits un thème que vous avez en commun, c'est celui de l'exil. Est-ce que vous pouvez en parler un peu, évoquer ce point commun que vous avez dans vos écritures?
Bien sûr, Amélie a écrit un livre absolument délicieux, magnifique, puissant et fort sur la migration, sur l'exil qui va du Cap-Vert jusqu'en France. Elle vous en parlera merveilleusement avec des portraits de femmes qui sont délicieux et qui sont d'une rare pertinence. Et en effet, moi, l'exil et la migration m'ont beaucoup intéressé, mais davantage dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant de la France pour le Chili. Donc deux migrations différentes à deux époques un peu différentes, mais finalement les douleurs restent les mêmes.
Oui, moi en effet, j'ai raconté une histoire d'exil sur des femmes donc, qui viennent du Cap-Vert et qui migrent en France. Mon personnage principal, c'est la troisième de la génération. Donc il y a la grand-mère, la mère et ensuite mon personnage principal, Léna, qui elle a une quinzaine d'années. Et donc elle vient de cette migration, elle vient du Cap-Vert et elle est issue, elle ne connaît pas le Cap-Vert, elle n'y est jamais allée, mais elle est issue de cette histoire-là.
Alors on sent vraiment que chacune de ces trois femmes a vraiment une personnalité incroyable et en même temps, bien sûr, elles se retrouvent, ce sont grand-mère, maman et fille, et donc elles ont des points communs, puisqu'on parlait de points communs tout à l'heure. Elles ont des caractères bien affirmés, elles sont véritablement fortes ces femmes, elles ont de la puissance ces femmes. Et pour autant, on a le sentiment toujours qu'elles passent à côté de quelque chose dans leur vie.
Ah, c'est marrant, je ne sais pas si je l'aurais dit comme ça.
Alors peut-être que ce sont des mots qui ne sont pas les bons.
Oui, non, en fait, c'est des femmes qui sont très fortes, très courageuses, et en même temps, elles ont une grande fragilité. C'est pas qu'elles passent à côté de quelque chose, mais il y a une peur qui est importante dans cette famille, et chacune, à sa façon, a envie de s'en affranchir. La première, la grand-mère, c'est en partant de son pays et en prenant en main son destin. Reine, donc sa fille, elle essaye de s'affranchir de cette peur et de vivre et vraiment acquérir cette liberté. Et sa fille Léna, qui elle veut être pianiste. Et elle n'a pas envie justement de passer à côté de quelque chose, si c'est comme ça que vous l'avez vu. Elle a envie vraiment d'être artiste dans une famille où on ne peut pas vraiment être artiste, où on interdit un peu aux femmes de rêver. Et donc, elle veut s'affranchir de cette peur et prendre en main son destin. Ouais.
C'est ça véritablement, parce que vous venez de dire le mot rêver, le verbe rêver, et j'avais le mot rêve effectivement, avant la narratrice. Donc la petite fille de la grand-mère qui part du Cap-Vert, les femmes ne peuvent réaliser leurs rêves finalement, ont du mal à le réaliser, on ne leur permet pas ça.
On leur permet pas, parce que au Cap-Vert, les femmes elles tiennent la maison. Souvent, il y a encore un rôle assez archaïque entre les hommes et les femmes. Chacune a encore un rôle où elles tiennent la maison. Et l'homme souvent part à l'étranger pour lui faire sa vie. Et elles tiennent le foyer. Et là, je trouvais ça intéressant aussi que ça soit des femmes qui partent pour elles-mêmes prendre en main leur destin justement construire leur destinée.
Miguel, pour terminer cet entretien avec l'un et l'autre, qu'est-ce qui vous a retenu dans ce texte qui est le premier roman, je le rappelle, d'Amélie Fonlu? Qu'est-ce qui vous a ému? Qu'est-ce que vous avez retrouvé pour conseiller à ce point ce récit, au point d'ailleurs que de faire qu'Amélie soit notre invitée avec vous ce soir?
Bien sûr. Non. Au-delà, bien sûr, de la force du texte, et on en parlera tout à l'heure, d'un texte qui non seulement parle d'une histoire de famille individuelle, singulière et particulière, il a la profondeur universelle qu'on peut retrouver dans les grands textes. Et là-dessus, c'est là où elle a fait mêler, bien sûr, le grand classique de la petite histoire dans la grande histoire, mais elle parvient à le faire avec habileté, avec pertinence, avec rapidité, avec précision, et tout en étant suffisamment fluide et fleuri pour ne pas perdre le lecteur en route. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que pour un premier roman, elle n'est pas allée dans peut-être l'écueil classique qui est celui de tomber sur une autofiction ou celui de raconter sa propre vie ou d'aller dans ses petites affaires de couloir, sinon au contraire de se mesurer à l'exercice beaucoup plus difficile qui est celui de créer un univers, de créer un monde, de créer des personnages, de faire un vrai roman. Et en ce sens, elle ferait œuvre de romancière.
Merci à tous les deux et bienvenue.
Merci beaucoup.
Merci.